Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 21h, question de sens, du lundi au vendredi. Demain vendredi, Fort intérieur par Olivier Germain Thomas. Aujourd'hui jeudi, La fabrique de l'humain par Philippe Petit.
Bonsoir, vous êtes sur France Culture, bienvenue dans La fabrique de l'humain. Aujourd'hui, je reçois le philosophe Dany Robert Dufour. Décidément, la crise de l'automne 2008 aura réveillé les consciences. Les études sur les origines du libéralisme, ses soubresauts, ses tentatives de refondation à la fin des années 30 et après 1945 n'en finissent pas de se renouveler. Mais il manquait un maillon à cette chaîne ininterrompue de réflexions rétrospectives et d'anticipations inquiètes sur le destin des sociétés libérales. Il manquait le maillon pornographie. Le philosophe Dany Robert Dufour comble ce manque dans son dernier ouvrage, La cité perverse, justement sous-titré Libéralisme et pornographie. C'est peu de dire qu'il tombe vraiment à pic. La crise morale que traverse aujourd'hui la gauche, mais pas seulement elle, n'est pas le fruit du hasard. Elle possède des antécédents que l'on peut lire dans la fabuleuse histoire de la libération des passions que nous conte Dufour. Son périple commence avec Pascal, il se poursuit avec Bernard de Mandeville, le Marquis de Sade et quelques autres. L'objectif du philosophe est assez simple, il entend démontrer comment la libération des passions, autrement dit le triomphe absolu de l'égoïsme, l'impératif de jouissance, le besoin de domination, ont transformé toutes les économies où interagissent les hommes, l'économie marchande, l'économie politique, l'économie esthétique, voire symbolique. Le libéralisme, selon Dufour, posséderait donc au moins deux faces, une face puritaine, représentée par Adam Smith, et une face perverse, représentée par le divin marquis. Il serait l'accoucheur d'un monde où les individus obéissent avant tout à ce commandement suprême, jouis. Un monde où l'on peut jouir non seulement dans la dimension sexuelle, mais aussi celle de la possession et de la domination, de même que dans celle du savoir. Ce monde ressemble-t-il au nôtre ? Nous avons invité Dany Robert Dufour pour nous aider à clarifier cette question. Bonsoir, Dany Robert Dufour.
Bonsoir.
Alors, la cité perverse, libéralisme et pornographie, je ne sais pas si vous nous annoncez une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, vous attaquez fort. Nous vivons dans un monde de plus en plus sadien, un monde où les individus obéissent avant tout à ce commandement suprême, disais-je dans la présentation, jouis. Sad, pas mort, Dany Robert Dufour.
Sade était mort, il est mort pendant deux siècles et Sade est revenu. Voilà la thèse que j'essaye de développer dans ce livre. Il est revenu dans notre monde progressivement au cours du XXe siècle par des chemins détournés, de façon assez masquée, avec ce que lui-même appelait une gaze. Une gaze, c'est donc ce qui voile un peu, mais qui laisse en même temps montrer. Puis il est venu de plus en plus un visage découvert. Voilà, alors j'essaye dans ce livre de faire la généalogie de ce principe de jouissance. On a cru pendant longtemps qu'il était venu au cours de la postmodernité, qu'il s'était progressivement imposé, et j'essaie de montrer en fait que non, que c'est un principe qui est sorti il y a longtemps dans la métaphysique occidentale. Et donc c'est ce point d'apparition que j'essaye de révéler, de montrer.
C'est quand même une drôle d'idée, Dany Robert Dufour, de relire le Marquis de Sade pour essayer de comprendre la crise financière de l'automne 2008. Parce que finalement, ce Marquis de Sade, il est presque responsable de Bernie Madoff, ex-dirigeant du Nasdaq. Il est presque responsable de la manière dont les grands patrons de General Motors, de Ford et de Chrysler sont venus demander des milliards d'aides publiques en jet privé, dites-vous. Alors, cette pornologie générale que vous mettez en œuvre pour essayer d'appréhender la crise de l'automne 2008, c'est pour le moins surprenant quand même de passer son temps à relire les 120 journées de Sodome pour essayer de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé.
C'est effectivement très, très bizarre, vous avez raison.
Ça peut surprendre.
Ça peut surprendre, mais je peux essayer de m'expliquer. Tout simplement parce que ce à quoi vous faites allusion, la crise qui est apparue à l'automne 2008, dont on dit qu'elle est finie, pour les banquiers, mais elle ne fait que commencer probablement pour le reste du corps social, cette crise a révélé un certain nombre de fonctionnements absolument pervers qui n'ont rien à envier à ce que le marquis de Sade avait en quelque sorte poussé à bout et nous avait montré avec une lucidité terrible, avec d'une façon irréfutable, mais dans une négativité telle que on a du mal à lire Sade. Tous ceux qui les grands lecteurs de Sade disent d'ailleurs que la lecture de Sade ne peut que nous rendre malades. Et je crois que la crise nous rend malades aussi. Elle nous a montré un certain nombre de maladies dont nous souffrions, notamment, par exemple, le principe d'égoïsme qui est tellement affirmé par Sade, par exemple, dans la philosophie dans le boudoir, dans le fameux chapitre 5, Français encore un effort, le principe d'égoïsme absolu qui est révélé par Sade, c'est celui qui est en jeu dans la crise. Et c'est le principe, cette fois, de la défense à tout craint de l'intérêt personnel, à tel point que cela s'est nommé la cupidité. Donc c'est une forme de l'égoïsme absolu que cette cupidité, et ce n'est pas moi qui le dis au fond, quand on y réfléchit un instant, c'est l'économiste en chef de tout le tournant libéral. C'est donc celui qui a été interrogé par la Commission fédérale, qu'on appelle le maestro, hein, qui a été le président de la Réserve fédérale. Et quand on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de la crise, il disait « je pensais que la cupidité était », c'est Alan Greenspan bien sûr, vous avez deviné, « je pensais que le principe de cupidité était la meilleure garantie qui soit, la cupidité des banquiers était la meilleure garantie qui soit pour chacun, et je m'aperçois que je me suis trompé ». C'est ce principe de cupidité, c'est ce principe d'égoïsme absolu, c'est ce principe de la défense à tout craint de l'intérêt personnel, c'est ce principe de la jouissance absolue dans tous les domaines où cela peut se manifester, entre les trois libidos que j'ai essayé, que j'ai repris en fait de la philosophie classique.
Alors, qui s'est manifesté énoncer au cours ces trois libidos pour que ça soit clair pour les auditeurs.
Alors on connaît la libido classique, la libido d'essence, la libido...
Sentiendi.
On connaît moins, on a oublié malheureusement la libido dominandi, qui est la possession, la jouissance, l'instrumentalisation de l'autre, qui est tout à fait dans la logique.
Le désir de s'enrichir aussi.
Le désir de s'enrichir, bien sûr, de la domination, donc c'est la domination sociale par la puissance de l'argent. Et puis la libido siendi, qui est le désir de savoir au-delà de toutes les limites, par exemple les limites qui nous affranchiraient, par exemple, d'un certain nombre de principes qui nous feraient... qui nous mettrait en position de recréer, par exemple, la nature, de recréer le génome, de réécrire, en fait, le vivant.
Alors, ces expressions latines nous prouvent toutefois que ce n'est pas nouveau, cet état jouissant. Alors, qu'est-ce qui distingue l'état jouissant des anciens et l'état jouissant des modernes, voire des postmodernes.
Bah oui, bah écoutez, excellente remarque. C'est si peu nouveau qu'effectivement, il les avait repérés. Mais il les avait repérés pour montrer comment il fallait absolument contenir ces libidos. C'était même le principe de la philosophie classique depuis Platon. Si vous relisez La République ou si vous relisez par exemple Phèdre, vous apercevrez que l'âme, c'est aussi à mettre en relation avec toute une théorie de l'âme qui se développe de Platon à Freud par exemple, l'âme est composée de trois parties. Il y a une partie qui est la partie concupiscente de l'âme, l'épitoumia, qui doit être absolument, qui est le siège des passions concupiscentes, donc le siège de ces libidos, ce qu'on va appeler libido en latin ensuite, qui doit être absolument contenu par la première âme, le nous. Et si ce n'est pas le cas, alors la seconde âme, le thumos, qui est le siège des passions irascibles, de la colère, peut se mettre au service de la troisième âme au lieu de se mettre au service de la première. Ça change tout, parce que si c'est au service de la première, ça donne des héros, et si c'est au service de la troisième âme, ça donne une destruction.
Je vais vous embêter, mais ce que vous dites, c'est vrai aussi pour les poètes latins, pour Ovide, pour Apulée, etc., qui sont quand même des poètes des sens plutôt joyeux.
Enfin, oui, bien
les
sûr.
Les lire, en tout cas.
Oui, absolument, bien sûr, mais il existe néanmoins cette nécessité du contrôle et de la maîtrise des passions. Pour les anciens, l'homme qui se laisse aller à ses passions, ce qu'on va appeler plus tard les pulsions, est comme un homme ivre. D'ailleurs, passion, c'est passif, c'est le même mot, passion, passif, pathos. Hein. Et quand on est dans la passion, en fait, contrairement à l'optique actuelle qui dit c'est beau les passions, il faut se laisser aller à ses passions, en fait, les anciens s'en méfiaient beaucoup, tout simplement parce que l'homme perdait toute maîtrise et était comme un homme ivre. Alors justement, ce qu'il y a de nouveau chez les modernes, à partir donc de ce tournant moderne que je situe aux alentours de 1700, c'est le renversement en fait de cette problématique qui correspond à un renversement de la métaphysique occidentale, tout simplement. C'est-à-dire, c'est le moment où les passions vont être libérées, et elles vont être libérées notamment dans et par le libéralisme, puisque ce qui était donc le principe de maîtrise et de contrôle des passions va se trouver au contraire exalté. Il va falloir libérer les passions. Vous connaissez très bien la tâche de Bernard de Mandeville dans la fable des abeilles. Les vices privés font la fortune ou la vertu publique. Donc à partir de ce moment-là, nous assistons à un renversement. Ça, c'est 1704 et il y a un avant 1704 qui commence avec Pascal, et un après 1704 qui se termine avec Sade. Et Sade aura tellement dit où cela mène qu'il va falloir l'enfermer pendant 27 ans de sa vie et le boucler pendant deux siècles dans l'enfer des bibliothèques.
Dany Robert Dufour, les passions vont se libérer, vont s'exhiber sans vergogne. Écoutons un instant Jean-François Lyotard, l'inventeur qui a remis sur le tapis la postmodernité, justement, ce qu'il disait du monde moderne.
Premièrement, postmoderne, ça ne désigne pas exactement une période, mais un courant qui a toujours été latent. Et qui a toujours eu ses expressions au cours de la modernité, et la modernité est très ancienne. La vraie modernité, au fond, elle commence avec Saint-Augustin, si on veut être sérieux. C'est-à-dire qu'il faut l'opposer précisément à l'âge de l'Antiquité classique. Mais au cours de ces deux millénaires, pratiquement, la modernité, c'est l'Occident, si l'on peut dire. Il y a toujours eu des œuvres qui se sont refusées à partager le présupposé de la modernité. Le présupposé de la modernité, vous savez, c'est nous commençons maintenant, n'est-ce pas ? Maintenant commence le projet d'émancipation qui est celui de la modernité. Donc c'est toujours une sorte de saut, comme disait Rimbaud, ou de coup de force sur le temps, n'est-ce pas ? On arrête l'horloge, on la remet à zéro. Et puis, on va déployer un projet avec une fin qui est l'émancipation. Ça a pris les formes les plus diverses, n'est-ce pas ? Ça peut être le christianisme, un certain christianisme. C'est évidemment la modernité cartésienne. C'est aussi celle du XVIIIe siècle. C'est encore celle de Rimbaud, à certains égards. Donc, elle est répétitive, la modernité, n'est-ce pas ? Elle refait ce geste très étonnant et très fou, d'un commencement et d'une fin au sens de finalité. Et il y a toujours eu, au cours de ces deux millénaires, des écrivains ou des artistes qui, au fond, n'ont pas pris part à cela. Si je regarde chez les politiques, je trouve Machiavel. Si je regarde chez les écrivains, je trouve Montaigne, qui ne sont pas précisément contemporains, mais qui pourtant sont absolument insensibles à cette grande et vaste idéologie.
La fabrique de l'humain, vous écoutez France Culture en compagnie du philosophe Dany Robert Dufour pour son grand livre « La cité perverse, libéralisme et pornographie » qui vient de paraître aux éditions de Noël. Dany Robert Dufour, donc, vous essayez de montrer effectivement dans ce livre que notre modernité résulte directement d'une posture philosophique et morale prise au tournant des années 1700, mais prise aussi au travers de l'œuvre de Pascal que vous analysez merveilleusement. Nous allons y revenir. Mais j'aimerais que vous commentiez un peu cette archive de Jean-François Lyotard, qui, comme vous, vous voyez, commence, remonte jusqu'à Saint-Augustin pour essayer de nous faire saisir la progression, ou plutôt les interférences des différentes libidos entre l'amour de soi, mais aussi l'amour de Dieu. Et donc, c'était une archive de 1994, les Vendredis de la philosophie. Jean-François Lyotard, le philosophe, donc, répondait aux questions d'Alain Weinstein. Dany Robert Dufour.
Oui, écoutez, Jean-François Lyotard est manifestement un immense esprit qui n'est pas toujours aujourd'hui encore assez connu. Je pense que ce qu'il a amené sur la postmodernité comme fin des grands récits théologiques est une invention philosophique absolument décisive qui nous permet de comprendre le tournant actuel. J'ai été longtemps dans le commentaire de cette fin des grands récits théologico-politiques, avec toutes les conséquences sur toutes les économies que vous avez exposées tout à l'heure, y compris l'économie psychique, l'économie politique, symbolique, sémiotique,
les économies humaines,
et toutes les grandes économies humaines. Ce qui m'a semblé à un moment donné, c'est que il ne faut pas considérer que la postmodernité est apparu comme ça dans un ciel serein. Subitement, il y a eu la modernité, comme le disait Lyotard, et puis subitement, on oublie tout, et il y a la postmodernité. Je pense qu'il y a un moment décisif, et ça constitue pour moi un travail dans la prolongation de ceux de Lyotard, mais qui s'avance un peu sur d'autres voies, qui est de marquer, il a parlé par exemple du XVIIIe siècle et des Lumières, je pense qu'il y a un tournant décisif qui se passe effectivement au XVIIIe siècle, un peu avant et tout au long du XVIIIe siècle. Ce tournant, on connaît évidemment, on parle des Lumières, et on connaît évidemment bien les Lumières du transcendantal, Rousseau, Kant, Hegel, etc. Mais on connaît moins bien les Lumières anglaises. On connaît bien les Lumières allemandes, mais on connaît moins les Lumières anglaises. Et en travaillant sur les Lumières anglaises, et plus précisément écossaises, tout ce qui nous mène, par exemple, de Mandeville, John Locke, et puis ensuite Mandeville, puis Adam Smith et Hume, tout ce qui se révèle, manifeste dans les Lumières anglaises est apparaît comme, on peut le construire comme l'exact opposé de ce que disent les Lumières allemandes. Pourquoi ? Parce que les Lumières allemandes posent un principe moral, c'est évidemment la philosophie morale kantienne, qui s'exprime par les grandes maximes, par les deux grandes maximes, je ne vous dirai que la seconde, tu dois considérer l'autre comme une fin en lui-même et non pas comme un moyen pour réaliser tes fins. Et on pourrait dire que, par rapport à ceci, les Lumières anglaises sont l'exact opposé, puisqu'elles imposent la cessation de tout principe moral et la mise en avant de l'intérêt personnel comme moteur même des relations humaines. Donc ne considère plus l'autre, c'est dit en filigrane, ne considère plus l'autre comme une fin en lui-même, mais considère-toi toi-même dans tes visées, dans la
réalisation de tes intérêts personnels et de ton égoïsme personnel. C'est ce qu'on va appeler, c'est ce que Adam Smith va appeler le self-love, la mise en avant du self-love comme moteur même des affaires humaines. Et donc là, on a affaire manifestement à deux champs extrêmement différents, et ceci n'était pas très bien connu, et c'est ce second champ que j'explore, parce que c'est celui, au fond, qui a triomphé, et qui triomphe aujourd'hui dans notre monde.
Alors, c'est celui qui a triomphé, Danny Robert Dufour, mais enfin, la grande originalité de votre livre, c'est que vous montrez quand même que ces lumières anglaises, elles ont été largement influencées par d'illustres prédécesseurs, puisque Pascal, d'une part, et un des disciples de Pascal, Nicole, qui sera lu par John Locke, etc. Et donc, pour le dire abruptement, vous refusez la lecture exclusivement puritaine de Blaise Pascal. Vous dites, et vous nous expliquez en quoi Pascal est notre premier grand pervers.
Oui. Il l'est à son corps.
Vous allez embêter pas mal de gens avec ça.
C'est évident.
Alors, mais il faut leur expliquer pourquoi c'est un grand pervers, ce Pascal.
Ben, c'est un grand pervers parce que lui-même se considérait comme un grand pervers.
Certes.
Il se reprochait beaucoup sa libidocienne dit. Il se reprochait beaucoup son travail dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de la science, dans le domaine de la géométrie, dans le domaine de l'équilibre des liqueurs, ces grandes expériences qu'il mène. Et il pensait qu'il y avait là une sorte d'outrepassement par rapport à la retenue dans laquelle il devait être. Alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que Pascal est hanté par une sorte de culpabilité où à chaque fois qu'il se livre à cette libido sciendi, il se punit en même temps très très fortement. Et j'essaye de lire Pascal comme un lieu qui est un lieu qui oscille sans arrêt de l'effraction, de la découverte, de la traversée, à un regret de la traversée et une remise de cette traversée dans les mains de Dieu pour qu'il se calme en quelque sorte.
Soyons encore plus abrupts pour les auditeurs. Vous dites de Pascal qu'il invente le capitalisme. Alors ça fera peut-être plaisir à Jacques Attali qui avait écrit un livre d'ailleurs qui était un de ses livres peut-être les plus construits sur Blaise Pascal. Mais bon, lorsqu'on évoque les pensées de Pascal, les provinciales ou même le traité sur le vide et ses écrits mathématiques, on ne pense pas à Pascal, inventeur du capitalisme. Alors il faut rappeler quand même qu'il a eu non seulement l'idée de commercialiser sa machine à calculer, qui est à l'origine du calcul des probabilités, mais...
La Pascaline.
La Pascaline, oui. La fameuse Pascaline, mais il a aussi mis sur pied, il faudrait plutôt dire mis sur roue, mis sur carrosse, je veux dire, le premier système d'omnibus, disons, dans Paris, pour donc transport en commun, quoi, en quelque sorte, mais qui n'était pas accessible à tous les Parisiens. Alors, ce Pascal-là, c'est vrai, c'est pas celui qu'on évoque le plus souvent, Danny Robert Dufour.
Oui, c'est le Pascal des carrosses à 5 sols.
Carrosses à 5 sols.
Voilà, les fameux carrosses à 5 sols, qui sont une invention géniale, et toutes les inventions du capitalisme procèdent souvent d'idées géniales, qui sont mises en circulation, qui sont des innovations techniques. C'est une grande innovation technique. Il quadrille la ville, il y a des points d'échange, il y a des stations, et il crée ce système. Et les gens qui utilisent ce système, c'est un succès fantastique, payent 5 sols, ce qui rend Pascal riche. Et ceci au moment même où il est en pleine mélancolie. Au moment où il est en pleine mélancolie pour ses effractions réussies dans la découverte scientifique, il est en pleine langueur, il se lance dans une entreprise qui est une entreprise de transport en commun, la première dans Paris, en prévoyant même de l'étendre à d'autres capitales, de l'étendre à d'autres capitales européennes, etc.
Investir, c'est échapper à la mélancolie ?
Probablement.
Il faut essayer, alors.
Alors, en tout cas, pour revenir à votre question, effectivement, on passe de Pascal au libéralisme anglais par une filière extrêmement précise. Il y a donc, au
vous apprend rien en disant que Pascal est du côté, évidemment, de Port-Royal, des jansénistes.
Ça, on l'a bien appris à l'école.
Ça, vous l'avez bien appris, tout le monde le sait. Chez les jansénistes, d'ailleurs, comme chez les protestants, comme chez les calvinistes, il y a un principe qui permet aux hommes d'accéder à la sainteté, c'est la grâce. La grâce, vous l'avez ou pas. Donc, si vous avez la grâce, eh ben, vous allez être sauvé. Mais, bon, le problème qui va se poser progressivement, et il est évident que Pascal reprend cette problématique, la reprend et la développe. Mais le problème qui va progressivement se poser, notamment chez son élève, disons, chez son héritier, chez Pierre Nicole, c'est de remarquer que, bon, ben, c'est bien beau la grâce, mais nous sommes dans un monde de la chute, nous sommes dans un monde d'après la chute. Hein. Et dans un monde d'après la chute, tout le monde n'a pas la grâce. Et même fort peu ont la grâce.
Dans un monde du déchaînement de l'amour propre.
Voilà, déchaînement de l'amour propre. Et donc, on est obligé de
faire
avec. De se débrouiller avec. Donc, si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a deux plans de Dieu. Le plan qui a la faveur de Pascal, on pourrait l'appeler, si vous me le permettez, le plan A de Dieu. Donc, c'est la sainteté. Et puis, ce qui se découvre progressivement chez les jansénistes, notamment Pierre Nicole, c'est le plan B de Dieu. Le plan B, c'est qu'il faut faire avec l'amour-propre des hommes, parce que 80 ou 90 ou 99% des hommes ne sont pas des saints. Et donc, Dieu, dans son immense bonté, le thème de la bonté de Dieu chez les Augustiniens est très très fort, Dieu ne peut pas avoir abandonné ces hommes déchus, ces hommes de la chute, ces hommes vicieux, ces hommes pervers. Et il a bien prévu un plan pour que ces hommes fassent quelque chose. Et donc, le plan sera progressivement découvert en passant des jansénistes...
Le plan B de Nicole. C'est très bien montré dans votre livre, avec texte à l'appui.
Avec texte à l'appui, c'est ça. En passant des jansénistes, donc Pascal, avec l'idée qui atteint un jour Pascal au moment de la rédaction des Pensées, peu avant sa mort, qui est qu'il peut exister une grandeur de l'homme qui serait la conséquence même, dit-il, de sa concupiscence. C'est les deux fameux fragments que je commente des Pensées, c'est qu'il puisse exister une grandeur de l'homme fondée sur la concupiscence de l'homme. Ce que va reprendre Pierre Nicole, le porter à de nouvelles conséquences. Donc avec la concupiscence, on peut faire un ordre, et un nouvel ordre, et un ordre admirable. Cet ordre est fondé sur l'intérêt personnel éclairé, personnel. Hein, on est déjà presque dans l'anticipation du self-love. Et puis de là, presque naturellement, ça va passer donc, des jansénistes à ce qu'on a pu appeler les cousins germains des jansénistes, c'est-à-dire les calvinistes.
Alors Pierre Nicole, c'est 1671, c'est essentiellement dans les essais de morale.
C'est les essais de morale, voilà. Ce sont des essais de morale qui sont un texte absolument fantastique, puisqu'on y trouve déjà donc, l'idée que l'on peut refonder entièrement le monde sur la concupiscence même et refonder un ordre admirable. C'est quand même sidérant chez les jansénistes, n'est-ce pas? Et ceci va être repris donc par les cousins germains, entre guillemets, des jansénistes, c'est-à-dire les calvinistes, hein, notamment donc par Pierre Bel, et de Pierre Bel, cela va passer à un autre calviniste fameux que j'ai déjà mentionné, Bernard de Mandeville, qui lui va donner la solution, je l'ai dit tout à l'heure, la solution c'est la morale de la fable des abeilles, comme dans toute fable il y a une morale, vice privé égale vertu publique.
Bernard voilà. de Mandeville, excusez-moi, dont vous faites carrément le premier des psys. Psychanalyste.
Oui, c'est le premier des psychanalystes, d'une certaine
Pourquoi
façon.
Pourquoi? Parce qu'il était à la fois médecin, enfin il faisait parler les gens. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est
le premier à dire, bon, allez-y.
C'est un médecin des âmes, donc
médecin des âmes.
C'est en tant que médecin des âmes, c'est d'abord en tant que médecin des âmes qu'il travaille à Londres, et il reçoit donc, il n'a pas du tout l'idée qu'on peut soigner les gens avec des poudres et des onguents ou des formules chimiques diverses, mais qu'on peut les soigner en les faisant parler.
C'est déjà la cellule psychologique.
Voilà. Alors,
Bernard de Mandeville, 1670-1733, on va pouvoir le dire à au responsable de France Télécom, donc l'inventeur de la cellule psychologique.
Exactement. Voilà. Exactement. Et il découvre que lorsque les gens qui ont leur passion bridée, chez les femmes hystériques de préférence et chez les hommes hypochondriaques, le fait qu'ils les fassent parler fait que ça va mieux. Donc c'est le premier temps de la découverte de Bernard de Mandeville. Le second temps de la découverte de Bernard de Mandeville, c'est non seulement ça va mieux, mais qu'est-ce que ça produit dans le monde? Eh bien ça produit de la richesse, parce que les gens visent leur intérêt personnel. Voilà. Et donc c'est comme ça que le Bernard de Mandeville médecin devient le Bernard de Mandeville premier des économistes, qui invente donc la science économique et la pensée libérale. C'est lui, au fond, le véritable inventeur de la pensée libérale.
Et du management.
Oui.
Écoutez France Culture, la fabrique de l'humain en compagnie du philosophe Dany Robert Dufour pour son livre La cité perverse, libéralisme et pornographie, tel est son sous-titre, qui vient de paraître aux éditions de Noël. Dany Robert Dufour, nous en étions à évoquer la figure quasi tutélaire de Bernard de Mandeville, le médecin et l'économiste, donc celui dont vous dites qu'il a en quelque sorte permis aux individus de se lâcher dans le monde et les a autorisés à produire de la richesse en toute quiétude, voire en toute vertu, ce qui veut dire qu'une société finalement de non-croyants peut être tout à fait vertueuse. Néanmoins, c'est pas passé, excusez-moi l'expression, comme une lettre à la poste, Bernard de Mandeville, puisqu'il a été accusé d'être un libertin et on le qualifiait lui-même de « man devil », c'est-à-dire l'homme du diable, Dany Robert Dufour.
Oui, la découverte du plan B par Bernard de Mandeville a du mal à passer chez les bons chrétiens. Bon, c'est clair. Et donc ça provoquera un scandale à travers toute l'Europe des Lumières quand la fable des abeilles sera diffusée avec cette morale amorale qui met en avant les vices privés. Eh bien le livre sera brûlé tout simplement dans toute l'Europe. Alors ce qui est extrêmement intéressant c'est la suite, puisque la découverte de ce principe chez Mandeville est faite d'une certaine façon, mais on ne peut pas le dire, parce que la mise en avant des vices dans une civilisation qui a toujours prôné la maîtrise et le contrôle des passions, c'est difficile à passer. Et celui qui va réussir à faire passer ça, c'est Adam Smith, parce qu'il va en quelque sorte blanchir Adam Smith. Et il va remplacer tout simplement le terme extrêmement licencieux de « vice privé » et provocateur de vice privé, par le terme beaucoup plus neutre de self-love, d'intérêt, que chacun poursuive ses intérêts, et la richesse des nations, la richesse collective sera servie. Et donc ça passe beaucoup mieux. D'une certaine façon, on pourrait dire que Adam Smith, si vous me permettez cette expression un peu rapide, a fait un, comment ça s'appelle, ce que l'on fait à l'ordinateur, un coupé, collé, remplacé. Mmh. À chaque fois qu'il rencontre vice privé, il met self-love à la place et ça passe beaucoup mieux. Et il va même aller, Adam Smith, jusqu'à accuser, pour se dédouaner, à Mandeville d'être un esprit licencieux avec lequel, lui, il rompt.
Mais en fait, il ne rompt pas du tout. Il a simplement blanchi Adam Smith et il a permis donc que la découverte scandaleuse de Mandeville ne soit plus scandaleuse et soit finalement adoptée par le... progressivement par le monde entier.
Mais Danny Robert Dufour, en même temps, le jeu spontané des passions, ça ne marche pas pour tout le monde, même du temps d'Adam Smith. Adam Smith dit lui-même que pour le pauvre, ce n'est pas si facile que ça.
Alors oui, le jeu des passions, notamment, devrait se auto-harmoniser par le fait, justement, là on est encore dans l'idée d'une religion libérale qui est la religion du marché. Hein, j'avais écrit ce livre qui s'appelait « Le divin marché » pour essayer de travailler sur cette question avant, « La cité perverse ». Et on est dans une religion libérale qui dit qu'il existe une providence, une main invisible, la fameuse main invisible du marché, qui permet d'homogénéiser les différents intérêts privés. Alors évidemment, il y a toujours qui reste en rade. Et donc il faut bien que Adam Smith dise quelque chose de ceux qui restent en rade. Et il dit quelque chose d'extrêmement intéressant là, puisqu'il dit que ceux qui restent en rade, les pauvres, ne doivent eux pas mettre en avant une injuste prévalence qu'ils pourraient se donner à eux-mêmes. Donc, eux sont appelés à en rabattre, au fond, sur les vices privés, sur le self-love, pour que la richesse des nations soit servie. Il est bien évident que la richesse des nations, c'est pas la richesse de tout le monde. La richesse des nations, c'est d'abord et avant tout la richesse des banquiers. Et donc, il s'agit de produire la richesse des banquiers, et on espère que lorsque cette richesse des banquiers sera produite, ça ruissellera assez sur les autres personnes pour que les autres personnes aussi en profitent.
Hein. Alors, le maillon manquant, là, jusqu'à ce moment de notre conversation, pour arriver à la naissance véritable du pervers puritain, ça c'est quand même aussi le gros de votre ouvrage, après Pascal, Adam Smith, c'est le Marquis de Sade.
Mais oui, évidemment, c'est le Marquis de Sade.
Soyons encore une fois directs et clairs. On connaît les couvents, les châteaux, les usines, mais alors vous dites carrément le Marquis de Sade. C'est celui qui a anticipé Ford et le Fordisme, la chaîne industrielle. C'est celui qui a anticipé donc l'idée de fabrique. Et je passe tout de suite dans un deuxième temps, puisque vous établissez un parallèle entre Marx et le Marquis de Sade, mais ça sera peut-être une deuxième question, mais retenez-la, parce que ça m'a intrigué. Vous dites, nous aurions évité carrément la création, du totalitarisme, de ces monstres froids que furent le socialisme réel, si Marx avait lu le Marquis de Sade. Alors vous allez nous expliquer d'abord pourquoi cette insistance sur Sade, et pourquoi le fait que si Marx avait lu Sade, on aurait évité les pays socialistes.
Oui, je crois que Sade, il a eu le temps de lire. 27 ans de sa vie enfermée, ça laisse quelques loisirs pour lire. Et je suis persuadé qu'il a lu les philosophes politiques écossais, et en particulier Adam Smith. J'en donne d'ailleurs dans mon livre une preuve textuelle, puisqu'on trouve appliquée au commerce amoureux une formule venue directement, je dirais presque mot pour mot, du commerce en général que les hommes peuvent avoir entre eux lorsqu'ils s'échangent des marchandises. Là, il s'agit pour ça de l'échange des corps. Et cet échange des corps, donc, qui est développé à tel point dans l'œuvre de Sade, que l'œuvre de Sade présente ses chaînes, on pourrait dire, de production et de consommation sur place de la jouissance. Production et consommation sur place de la jouissance. Alors, c'est, je crois, extrêmement intéressant parce que Sade nous dit en quelque sorte, il tire les leçons de la philosophie politique anglaise. Vous voulez mettre l'égoïsme en premier plan ? Vous voulez mettre l'intérêt personnel en premier plan ? Vous voulez mettre la jouissance au premier plan ?
Alors allez-y.
Allons-y. Et il y va. Il y va. Et ça donne cette œuvre
terrifiante, monstrueuse, sublime, mais au sens kantien de sublime, c'est-à-dire aussi effroyable que saisissante, parce qu'on n'arrive plus à se représenter, à saisir même intellectuellement, tellement ça va loin. Et donc c'est ça qu'il nous montre en quelque sorte, c'est le résultat de la mise au premier plan, donc du self-love et de l'égoïsme. Bon, alors, je crois que si Marx avait lu Sade, pour reprendre votre deuxième question, il se serait aperçu que des mécanismes libidinaux sont en jeu dans la production et que la production est toujours une production de captation de la libido de quelqu'un pour la mettre au profit, en l'occurrence au profit de celui qui non seulement tire la plus-value, comme Marx le savait très bien, pour donc accroître le capital, mais qui, en l'occurrence aussi, consomme et peut consommer cette plus-value dans des opérations de jouissance. Et donc, ça nous fait apparaître d'un seul coup la production non plus comme un simple phénomène économique, mais dans un phénomène d'économie libidinale généralisée. Et du coup, si on avait compris, si je pense que si Marx avait compris ceci, nous n'aurions pas vécu de la même façon les expériences déplorables, terrifiantes. On est à l'époque de la commémoration de la chute du mur en ce moment, qui ont été celles du communisme réel, parce qu'on aurait compris qu'il se jouait là-dedans des mécanismes libidinaux extrêmement puissants dont il fallait absolument tenir compte. Je crois que y a une perspective qui nous aide à comprendre un petit peu ceci, c'est la perspective qu'a développée à un moment donné Lacan, lorsqu'il a proposé la transformation donc de la plus-value marxienne, pourrait-on dire, de Marx. Je ne dis pas marxiste parce que les marxistes n'ont pas bien compris Marx, c'est aussi ceci que j'essaye de montrer dans mon livre, mais que la plus-value était aussi un plus de jouir et que l'extorsion de cette plus-value était incessamment convertissable en plus de jouissance. Et ça, Sade, dans les châteaux sadiens de production, consommation de la jouissance, nous le montre parfaitement.
Le désir n'est pas la passion inutile où se formule l'impuissance à le penser des théoriciens de l'intention existentielle. Le désir est proprement la passion du signifiant, c'est-à-dire l'effet du signifiant sur l'animal qu'il marque et dont la pratique du langage fait surgir un sujet. Un sujet non pas simplement décentré, mais voué à ne se soutenir que d'un signifiant qui se répète, c'est-à-dire comme divisé. D'où cette autre formule. Le désir de l'homme, si l'on peut dire, c'est le désir de l'autre. En l'autre est la cause du désir d'où l'homme choit comme reste. Tout ceci s'énonce en une suite scientifique. À partir du moment où il y a une science du langage aussi fondée et aussi sûre que la physique, ce qui est le cas au point où en est la linguistique, c'est le nom de cette science, d'être considérée partout maintenant pour ce qui est du champ humain comme une science pilote. On a entendu qu'à « humain » et à « homme » nous mettons des guillemets. Pour autant que, dans ce que représentent ces termes, est déjà présent l'effet du langage et qu'ils doivent donc rester en suspens tant que la science nécessitée par les faits de l'inconscient ne sera pas plus assurée dans sa méthode et ses principes.
Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'humain, en compagnie du philosophe Dany Robert Dufour, qui vient de publier chez De Noël La cité perverse, libéralisme et pornographie d'Annie Robert Dufour. Nous écoutions à l'instant Jacques Lacan, une archive de 1966 dans les chemins de la connaissance. Eh bien, d'Annie Robert Dufour, je vais vous faire plancher. Le désir et la jouissance, c'est pas tout à fait pareil, hein, si j'ai bien compris.
Mais écoutez, nous sommes bien d'accord là-dessus. On pourrait même dire que c'est, si vous me poussez un peu, je dirais même c'est le contraire. Parce que le désir ne peut procéder que d'une jouissance qui est en quelque sorte entravée, d'une jouissance soustraite. Ça ne veut pas dire qu'il faut soustraire toute la jouissance. Je ne suis pas du tout dans les problématiques donc des morales anciennes, patriarcales, qui soustrayaient absolument toute jouissance. Mais je suis quand même dans une problématique freudienne, qui dit que tout ne peut pas se faire. Et ça procède même, ceci est en jeu, dans l'assomption subjective, c'est parce que pour le petit enfant, au moins une est interdite, on ne peut pas en jouir de celle-ci, que toutes les autres sont permises. Et donc, c'est parce qu'une est interdite en jouissance que toutes les autres en désir sont permises. Ce qui veut dire que pour que le désir puisse se manifester, il faut qu'il y ait une soustraction minimale
Laquelle ?
De jouissance et qu'on suive d'autres chemins pour essayer quand même d'arriver à ses fins.
Laquelle soustraction ?
Pour l'enfant, pour le petit enfant, c'est que la mère est interdite, par exemple. Et pour nous, adultes, c'est le fait qu'on ne peut pas tout faire. C'est le fait, par exemple, que, je ne sais pas, si je croise quelqu'un dans la rue, disons une femme qui m'intéresse, je ne lui saute pas dessus.
Pas tout de suite. Non.
Pas tout de suite. Je ne me déshabille pas devant elle, je ne la déshabille pas. Si je suis en colère, par exemple, contre vous dans ce studio, je ne vais pas cesser de parler pour commencer à me battre avec vous. Non, je vais employer des moyens détournés, qui sont des moyens de discours. Donc je ne peux pas tout faire, je ne peux pas m'ivrer à toute ma jouissance. Je ne cesse d'être un être rabattu dans toute ma jouissance. Elle ne peut pas être toute. Et ça a beaucoup d'avantages, puisque du coup, si je ne peux pas faire tout ça, cette femme, par exemple, au lieu de lui sauter dessus, je devrais essayer de rester vêtu, correct avec elle, et d'abord de lui parler.
Alors, le virage libidinal du capitalisme, bon, nous évoquions à l'instant les figures de Marx et du marquis de Sade. Faisons quand même un petit saut pour essayer de voir comment les choses s'articulent dans votre raisonnement. Bon, on a bien compris comment vous mettez à jour la naissance du pervers puritain. On a bien suivi cette lignée, cette juxtaposition qu'il peut y avoir entre Pascal, Nicole, les Lumières écossaises, etc. On est arrivé effectivement à la figure de Sade comme étant celui qui a anticipé, disons, au maximum cette loi sacrée, voire cette loi suprême de la jouissance. Et alors, petit détour par la crise de 1929. Il faut rappeler que votre livre commence, nous l'avons déjà dit, par l'évocation de la crise de l'automne 2008. Et évidemment, ça, vous avez cela en commun avec le philosophe Bernard Stiegler, vous pointez également votre projecteur sur le Édouard Bernays, le neveu de Freud, alors notamment avec l'apparition, alors la autre naissance, c'est pas le pervers puritain, mais nous en parlions de façon indirecte à l'instant, la naissance de la pin-up.
Oui, alors, quelques mots sur la crise de 1929, donc antérieure de 80 ans à la crise actuelle de 2008 et qui se répondent en quelque sorte l'une l'autre. On pourrait dire, je vais évidemment très très vite, mais vous pensez bien que je suis obligé et que j'essaye de déployer ça beaucoup plus lentement dans mon travail. On pourrait dire que la crise de 1929 est créée par une crise à la fois de spéculation, bien sûr, un peu à la façon des subprimes, puisqu'on a des lieux de spéculation immenses. La bourse a été multipliée par 400 en 7 ans. Il y a eu un tournant libéral pendant la présidence Coolidge. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est le capitalisme était surtout un capitalisme de production. Et il produisait des objets. Et évidemment, la plus-value se faisait sur la ponction qui est effectuée sur le travail de l'ouvrier, du prolétaire, si vous voulez. Et donc c'est comme ça que se constituait le capital. Mais bon, il se restait qu'il y avait toute une série d'objets en surnombre qui ne pouvaient plus être vendus. Et je crois que c'est là où je pourrais dire que si Marx avait lu Sade, on aurait été prévenu de ce qui allait arriver. Parce que pour le dire d'une certaine façon, je dirais que c'est Sade qui a sauvé le capitalisme de la crise de 1928. Ou plutôt c'est la pin-up, qui est un personnage un peu sadien puisqu'elle excite à la jouissance, qui a sauvé le capitalisme. Pourquoi ? Parce que ces objets...
Oui, c'est un titre de chapitre, enfin un sous-titre. Comment la pin-up a sauvé le capitalisme ?
Oui, 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 c'est comment la pin-up a sauvé le capitalisme. Parce
les lecteurs pressés peuvent aller directement à la page 184.
Il a fallu donc, pour s'en sortir, on pourrait dire, érotiser tout objet en montrant que tout objet pouvait être une source de satisfaction pulsionnelle. Et pour érotiser tout objet, il a donc fallu mettre une pin-up derrière chaque objet, la pin-up objet d'identification pour la femme et objet de désir pour l'homme. Et tout objet, donc, s'est trouvé érotisé en quelque sorte et devenu un objet de convoitise. Et là, il est évident que progressivement, donc à partir surtout de Roosevelt, puis surtout à partir de l'après-guerre, à partir de 1945, on est passé dans un mécanisme de capitalisme de la production à un capitalisme de la consommation, où donc une partie de la plus-value a été rétrocédée à celui qui n'était pas simplement le producteur, mais qui est devenu aussi le consommateur et qui a pu consommer pour satisfaire donc ce que le marché proposait, c'est-à-dire satisfaire des appétences pulsionnelles par des objets produits en grand nombre et donc promettre une jouissance généralisée par des objets produits en très grand nombre. Et il est extrêmement intéressant qu'un des premiers objets qui a été érotisé, c'est la cigarette. La cigarette, qui est un objet manifestement addictif. Si ça a porté sur un objet addictif, c'est pas pour rien. C'est parce que l'addiction est devenue, dans notre monde d'objets qui promettent tous des satisfactions pulsionnelles, la cigarette est devenue cet objet qui addicte.
Et là, excusez-moi de vous couper, mais vous faites référence directement au défilé de femmes affriolantes qui a eu lieu près de Central Park, disons qu'à New York, donc après la crise de 29 ou
Non, c'est juste, après. On est au démarrage de la crise de 1929.
Ah, au
donc
démarrage.
Les prémices sont déjà là. On sent que ça commence déjà à tourner mal. Et c'est Bernays qui se trouve être le double neveu de Freud. C'est un des personnages qui m'intéresse beaucoup avec mon ami de philosophe Bernard Stiegler. Qui a fait en quelque sorte une psychanalyse appliquée pour lire les désirs et les appétences des masses et pour proposer aux masses américaines des objets formatés, des objets libidinaux formatés, supposés satisfaire.
Donc on met au point les fameux spin, manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion, des affects, des émotions, etc.
Manipulation généralisée, c'est une manipulation libidinale, manipulation pulsionnelle, et c'est comme ça qu'a tenu ce capitalisme de la consommation, par une promesse de satisfaction pulsionnelle, une manipulation généralisée, parce qu'il faut que le désir soit absolument formaté pour être bien dirigé vers les objets qu'on propose, et pas vers le reste. C'est pour ça qu'il y a un côté pervers. Il faut absolument consommer, et même jusqu'à un point de façon addictive, ces objets proposés à la consommation. Et puis le reste, il ne faut pas. Et quand il ne faut pas, il est puritain. Et donc il y a ce côté pervers puritain, et ça me semble être une partie du livre, une proposition du livre, qui est peut-être une proposition, disons, centrale de ce livre, c'est la naissance donc de la figure du pervers puritain, qu'on avait vu déjà avec le balancement Smith-Sade, mais qui va être réactivé donc à partir de la crise de 1929, et qui est maintenant un personnage
extrêmement important, ce pervers puritain, puisque à la fois on a des incitations perverses permanentes et en même temps un frein qui est fait au nom de ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça ne marche pas et ça fait perdre, disons, la direction de la libido sur des objets qui, eux, sont des objets proposés. Il faut qu'ils soient bien dirigés sur des objets proposés et pas sur des objets non proposés qui ne rapportent rien, en quelque sorte.
Alors les objets proposés, c'est ce par quoi on attrape un Européen d'aujourd'hui, alors?
Oui, on attrape des Européens que, vous savez, pour, je crois que c'est Benjamin Barber qui dit ça, pour attraper un singe, c'est très facile. On prend une petite boîte, on fait un trou dans la boîte, on lui met une noix, le singe vient la nuit, il met sa patte dans la boîte et il ne peut plus retirer la patte parce qu'elle est fermée sur l'objet. Mais d'une certaine façon, pour attraper un Européen moyen, c'est la même façon. On présente des objets dans des boîtes télévision ou sur des murs de la ville et on va les acheter au supermarché. Quand on a attrapé l'objet, on est en fait attrapé par l'objet qu'on attrape. C'est-à-dire qu'on croit satisfaire en toute liberté une satisfaction pulsionnelle, mais on est attrapé par l'objet qu'on attrape, c'est-à-dire qu'on est mis en troupeau, en quelque sorte, en troupeau de consommateurs qui sont ainsi guidés d'objet en objet.
Alors pourquoi vous dites « je tiens que la dépression est pensable de ce point de vue, donc comme l'envers de la perversion ?»
Ben oui, parce que la perversion, c'est celui qui a réussi à instrumentaliser l'autre. C'est l'envers, on pourrait dire, de la morale kantienne que je rappelais tout à l'heure. C'est celui qui considère donc l'autre comme un simple moyen pour satisfaire mes propres fins de jouissance. Bon. Dans cette mesure, ça marche ou ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, parce que souvent ça ne marche pas, ben la seule solution, l'envers de la perversion, c'est la dépression qui me plonge dans la situation où je suis en quelque sorte en deçà de cet idéal du moi que je me propose en étant celui qui est dans la puissance, l'infatuation subjective, la satisfaction pulsionnelle généralisée, etc. Si je ne peux pas réaliser ça, eh bien, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le refuge de la dépression.
Et peut-être la lecture de La Cité perverse, sous-titrée Libéralisme et pornographie, de Dany Robert Dufour. Juste un mot, 5 secondes.
Oui, juste un mot pour dire que la cité perverse, c'est aussi la perverse cité.
Merci Dany Robert Dufour pour ces précisions. C'était La Fabrique de l'Humain, une émission proposée par Philippe Petit. Les auditeurs qui voudraient approfondir ces réflexions et qui chercheront à savoir pourquoi Sade est l'inventeur de notre monde trouveront sur le site de France Culture les références de vos ouvrages. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir le philosophe Guillaume Leblanc pour parler de l'invisibilité sociale. À la réalisation, Viviane Noël, attachée de production Claire Poinsignon, au mixage Pascal Bénard. Demain, vous pourrez suivre à 21h l'émission Fort intérieur d'Olivier Germain Thomas qui recevra le compositeur Akira Tamba. Dans un instant, vous pourrez écouter le journal de la rédaction de France Culture, suivi de Hors-Champ, l'émission de Laura Adler. À jeudi prochain.